7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 19 janvier. Élysée 2022, les candidats face au 7-9. Vous le savez, c'est notre nouveau rendez-vous politique jusqu'à la présidentielle. Ce matin, Marine Le Pen sera notre invitée de 8h20 à 9h30. Posez-lui vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Vous aurez, amis auditeurs, largement la parole tout à l'heure. Marion Lourd, bonjour.
Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, le grand oral d'Emmanuel Macron aujourd'hui au Parlement européen. Un discours pour lancer la présidence française de l'Union. Politique étrangère, politique française étroitement entremêlée. On voit ça, Marion, après les autres titres.
Nouveau record de contamination à la Covid. Bientôt le pass vaccinal en France. Au Québec, il s'applique déjà à l'entrée de certaines boutiques et le gouvernement veut maintenant toucher les non-vaccinés au porte-monnaie. À la une aussi, la loi du silence, c'est fini. La candidate LR, invitée de Jean-Jacques Bourdin, fait allusion à l'enquête qui vise le présentateur. Le chef de la diplomatie américaine à Kiev alerte sur une possible attaque russe. Et les cauchemars du réalisateur Guillermo del Toro envahissent nos cinémas aujourd'hui.
Invité de France Inter, Léa avec vous à 7h50.
Oui, deux oiseaux de nuit, poètes et déjantés qu'on a réveillés aux aurores. Et pour la bonne cause, ils viennent défendre Adieu Paris, un film sur l'amitié masculine, le temps qui passe, l'amour, la vie. Édouard Baird et Benoît Poulvord seront avec nous à 7h50.
À tout à l'heure Léa.
France Inter.
Emmanuel Macron enfile aujourd'hui son armure de président du Conseil de l'Union Européenne, la défense de l'Europe comme oriflamme. En effet, le chef de l'État donne ce matin son discours inaugural, 20 minutes au Parlement de Strasbourg, suivi de questions-réponses avec les eurodéputés. Façon de défendre les priorités de cette présidence pour les 6 mois à venir. Bonjour Lise Baudet.
Bonjour.
À quoi sert cet exercice officiellement? La présidence française était déjà lancée, non?
Et oui, c'était le 9 décembre dernier, conférence de presse à l'Élysée, un triptyque qui claque, relance, puissance, appartenance et une longue liste de chantiers. Pas question aujourd'hui de se répéter, le président va prendre de la hauteur, dit-on. Il va faire en somme comme ses prédécesseurs, offrir une vision, un cap, être moteur, ambition bien française, arrogance, diront certains. Emmanuel Macron va reprendre son fil rouge, celui de la souveraineté européenne, et livrer sa vision de notre identité commune, dans l'espoir de convaincre au-delà de son camp politique un Parlement dont il aura besoin pour avancer sur ses priorités. Salaire minimum, taxe carbone aux frontières, réforme de l'espace Schengen.
Alors Louise, l'Élysée se défend de faire de ce discours un acte de campagne, mais à moins de 3 mois de la présidentielle française, peut-on y croire ?
Écoutez, les adversaires d'Emmanuel Macron s'emploient à démontrer le contraire en tout cas. Marine Le Pen hier à Paris, Éric Zemmour aujourd'hui à Calais, Jean-Luc Mélenchon à Strasbourg, Yannick Jadot jusque dans l'hémicycle. Tous ont fait hier ou font aujourd'hui campagne européenne contre Emmanuel Macron. Et on n'aura pas beaucoup de problèmes de traduction tout à l'heure au Parlement européen. Plus du quart des orateurs inscrits sont des eurodéputés français. Emmanuel Macron lui-même est fautif, martèle ses détracteurs. Il a refusé de décaler la présidence française de l'UE au risque de percuter la campagne élyséenne. Et si tout à l'heure le président va parler, le candidat de demain pourrait en profiter. Avec lui pour l'Europe ou contre elle avec les autres, ligne de partage méthodiquement creusée depuis 5 ans en France comme sur la scène européenne.
Parmi les priorités, on le disait, taxe carbone aux frontières, régulation des géants d'Internet, réforme de l'espace Schengen et le salaire minimum européen. Pas le dossier le plus simple, Angélique Bouin.
Avec un salaire minimum 7 fois plus important au Luxembourg qu'en Bulgarie, 2200 euros contre 330, il n'est pas question d'un SMIC unique, mais plutôt d'un cadre pour instaurer des salaires minimums dans l'Union en adéquation avec le niveau de vie dans chaque État membre. L'objectif est double, lutter contre la pauvreté et faire converger les salaires. Quand le coût du travail est moins cher chez nos voisins, ça crée une concurrence déloyale, cela sape les fondements de l'Union et l'adhésion des citoyens, insiste une source gouvernementale française. Le président Macron espère un accord rapide sur une avancée sociale qui serait un bon signal à la fois sur sa gauche et vis-à-vis des entreprises. Mais l'affaire n'est pas gagnée car certains pays ne veulent pas d'une loi trop contraignante, au Nord en particulier, Danemark, Suède, Finlande, où l'on estime que l'Europe n'a pas à se mêler de social et où l'on privilégie la négociation collective pour assurer des salaires décents. La directive aura donc une portée assez limitée. Elle détermine certains cadres avec des indicateurs. La Commission suggère 60% du salaire médian, mais elle promeut surtout un renforcement du dialogue social pour tirer les salaires à la hausse. Strasbourg, Angélique Boin, France Inter.
Un salaire minimum pour permettre par exemple de faire son plein d'essence. Les prix flambent toujours. Nouvelle hausse du baril de pétrole cette nuit. Il atteint 88,50 $, soit 78,10 €.
Il est 7h05, de nouvelles aides pour le secteur de l'hôtellerie restauration, Marion, affecté par la pandémie.
Elles concernent les entreprises de moins de 250 salariés. Le Premier ministre l'annonce, l'État prendra en charge 20% des salaires pendant 2 mois. Ce coup de pouce intervient alors que le patron de la Banque de France lui prévient que notre pays ne peut pas plus dégrader ses finances publiques. Le virus en tout cas continue de se répandre. Les contaminations atteignent des niveaux records. On dépasse les 300 000 nouveaux cas par jour sur une semaine. Chez nous, la principale réponse s'appelle le pass vaccinal. Décision du Conseil constitutionnel attendue vendredi sur le sujet. Le sésame sera réclamé partout où jusqu'ici le pass sanitaire était en vigueur. Au Québec, il faut dégainer son passeport vaccinal même pour acheter de l'alcool ou du cannabis en vente libre là-bas. Et ça ne s'arrête pas là. Hélène Jouan l'a constaté à Montréal pour France Inter.
Deux bouteilles de vin blanc dans son cabas, Robert sort d'un magasin de la Société des alcools du Québec. Il s'est plié de bonne grâce à la vérification de son passeport vaccinal.
Ça change rien pour moi. Je suis vacciné, j'ai ma carte. Donc, on va prendre 2 minutes de plus, c'est tout. Ils sont pas vaccinés, qui s'arrangent avec le problème. C'est plate, là, mais...
Les clients sont plutôt soulagés de constater que la pression s'accentue désormais sur les non-vaccinés. Mais à quelques mètres de là, une jeune femme passe rapidement son chemin et pour cause.
Moi, je suis pas vaccinée. Puis je trouve ça ridicule un peu. On va acheter nos boissons ailleurs.
Pas très compliqué de se débrouiller. Il suffit de commander en ligne alcool ou cannabis pour échapper à l'obligation de montrer son sésame. Mais ce n'est pas fini. D'ici quelques jours, les rétifs au vaccin seront aussi privés de bricolage, par exemple, avec le passeport vaccinal exigé à l'entrée de toutes les grandes surfaces non alimentaires. Le ministre québécois de la Santé, Christian Dubé, assume vouloir leur compliquer la vie.
Si les non-vaccinés sont mécontents de cette situation, il y a une solution très simple à leur porter, c'est de se faire vacciner.
La prochaine offensive contre les non-vaccinés se fera sur leur porte-monnaie avec la future contribution santé, une taxe rien que pour eux. À Montréal, Hélène Jouan, France Inter.
Là aussi, passe vaccinal obligatoire. Le salon de l'agriculture aura bien lieu chez nous du 26 février au 6 mars. Il faudra y porter le masque et les organisateurs promettent une ventilation optimisée.
Il est 7h07. Valérie Pécresse défend le pouvoir d'achat et attaque la loi du silence.
La candidate LR à la présidentielle était hier soir l'invitée de Jean-Jacques Bourdin pour sa nouvelle émission politique sur BFM TV. Avant de décliner ses propositions économiques, sociales, sociétales, la présidente de région Île-de-France a tenu à justifier sa présence en plateau malgré l'enquête pour agression sexuelle qui vise le présentateur.
Mais avant de commencer l'émission, j'aurais voulu dire quelques mots parce que je me suis clairement posé la question de ma participation à cette émission ce soir en raison de l'ouverture d'une enquête par la justice à la suite d'une plainte déposée contre Monsieur Bourdin pour tentative d'agression sexuelle. Alors je sais qu'il conteste fermement ces faits et bien sûr c'est à la justice de les trancher et je respecte la présomption d'innocence à laquelle chacun de nos compatriotes a le droit. Mais je voudrais le dire très clairement, si ces accusations sont avérées, elles sont graves et elles doivent être condamnées. Le combat contre le harcèlement sexuel et contre les violences faites aux femmes est un combat personnel pour moi. Trop longtemps, la société a regardé ailleurs, a fermé les yeux, a cherché à minimiser. Trop de femmes ont eu peur de porter plainte. Présidente de tous les Français, je ne laisserai plus aucune femme avoir peur de porter plainte. La loi du silence, c'est fini.
Jean-Jacques Bourdin a répondu lui qu'il contestait les faits et n'allait pas s'exprimer sur le sujet. Valérie Pécresse qui a estimé aussi que le ministre de l'Éducation, plutôt que de partir en vacances à Ibiza, aurait dû prendre quelques jours pour concerter. Jean-Michel Blanquer s'est à nouveau défendu hier soir au journal télévisé. C'était un peu une erreur, admet le ministre. Vous l'entendrez dans le journal de 7h30. Reste à voir si ces propos convainquent les professeurs. Plusieurs syndicats appellent à la grève demain. Au chapitre politique encore, il n'y aura pas de remontada. Arnaud Montebourg doit annoncer aujourd'hui par vidéo son retrait de la course à la présidentielle. Elle ira jusqu'au bout. Marine Le Pen est l'invitée aujourd'hui, la candidate face au 7-9, matinale spéciale. Donc, la représentante du RN qui arrondit les angles d'après le baromètre Kantar pour France Info. 40% seulement des Français voient en elle une représentante de l'extrême droite xénophobe en forte baisse par rapport à 2018. Élodie Forêt, Marine Le Pen cultive cette image adoucie.
Terminer la caricature, s'est réjouie Marine Le Pen à la lecture du baromètre. Ce qui paie, analyse un proche, c'est de ne pas être tombée dans la machine à buzz. Au contraire, la candidate revendique de tracer sa route sans déclencher de polémique. Une campagne à base de photos souriantes, de relations détendues avec la presse et de propositions plus lisses qu'en 2017. Objectif, forcer le contraste avec Éric Zemmour, comme récemment après la sortie de l'ancien polémiste sur les enfants handicapés. Le RN a aussitôt pris le contre-pied, vantant l'inclusion comme une fierté française. Mais en interne, la stratégie fait débat. Certes, l'électorat de gauche a moins peur de nous, soupire un responsable. Mais à l'heure du choix, il fera quand même barrage. Un autre élu s'agace. Sa stratégie, c'est une thérapie. Elle veut que les gens la trouvent sympa. Mais pour mobiliser notre électorat, il faut lui faire un peu peur. Avec une difficulté pointée par ces deux cadres, dans ses propositions, rien ne passe. Le mur du son. Contrairement, selon eux, à Éric Zemmour, qui, s'il choque une partie de l'opinion, réussit le pari de marquer les esprits.
Marine Le Pen sur France Inter, donc à partir de 8h20.
Et jusqu'à 9h30, une autre femme brigue la présidentielle en Colombie.
Ingrid Betancourt, ex-otage des FARC, vient de l'annoncer. Elle veut diriger le pays à partir de mai prochain. L'ex-otage dirige un petit parti écologiste et doit encore gagner une primaire pour s'aligner dans la course. La politique à l'étranger, c'est aussi le chef de la diplomatie américaine, tout juste atterri à Kiev. En Ukraine. Objectif, désamorcer la crise russo-ukrainienne sans pour autant mâcher ses mots à l'égard de Moscou. Jen Psaki, porte-parole de la Maison-Blanche.
Le président Poutine a créé cette crise en amassant une centaine de milliers de troupes russes le long des frontières de l'Ukraine. Cela inclut le déplacement des forces russes en Biélorussie récemment pour des exercices conjoints et la conduite d'exercices supplémentaires à la frontière orientale de l'Ukraine. Soyons donc clairs, notre point de vue est que la situation est extrêmement dangereuse. Nous sommes maintenant à un stade où la Russie peut lancer une attaque en Ukraine à tout moment. Et ce que le secrétaire Blinken va faire, c'est souligner très clairement qu'il y a une voie diplomatique à suivre. C'est donc au président Poutine et aux Russes de choisir s'ils vont subir de graves conséquences économiques ou non.
Un propos recueilli par Sébastien Paour, correspondant de France Inter à Washington. Nous serons aussi en Ukraine à 7h15 dans le Zoom de France Inter. Des échanges musclés attendus dans le Policier Palais du Luxembourg. Les sénateurs entendent aujourd'hui Vincent Bolloré, patron de Vivendi, entre autres, au centre des discussions, la concentration des médias et son impact sur la vie démocratique. Et puis on l'avait quitté oscarisé en 2018 pour son film La Forme de l'eau. Guillermo del Toro revient. À partir d'aujourd'hui, le réalisateur mexicain propose sur les écrans français son long métrage Nightmare Alley, les aventures d'un bonimenteur consumé par son ambition, Corinne Pellissier.
Sans jamais délaisser les monstres et les personnages cabossés de ses précédents longs métrages, Guillermo del Toro s'inscrit ici dans la plus pure tradition du film noir. Une histoire adaptée d'un roman des années 40, déjà culte au cinéma, autour d'un homme rongé par son passé qui débarque un jour dans un cirque dans l'espoir d'un nouveau départ entre petite combine et grosse arnaque. What is the object
being held? A pocket watch. McGregor.
Master Stanton, can you kindly name them?
What's inside the bag?
Avec sa mise en scène virtuose, ses décors extravagants, sa patine vintage, Guillermo del Toro non seulement sonne très juste, mais nous renvoie surtout à une réalité bien d'aujourd'hui, autour d'un monde qui déraille, avec ses faux-semblants, ses mensonges et ses personnages retors. This is not a carnival trick. Cate Blanchett en héroïne hitchcockienne, vénéneuse à souhait, et un Bradley Cooper à son meilleur en mentaliste arnaqueur, dans cette fable très réussie sur la cupidité et l'ambition.
Un film France Inter est figuré pendant le tournage. Bradley Cooper a dû passer 6 heures tout nu devant les caméras. Faut pas attraper froid quand même.
Surtout pas. Merci Marion Lourd. Dans 3 minutes donc, le zoom en Ukraine aujourd'hui en première ligne face aux Russes.